Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast C'est ta santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois médical, personnel et même politique. Les infections sexuellement transmissibles, ou IST. Nous allons surtout essayer de préciser comment les prévenir et les dépister de manière adaptée à la diversité des genres, des corps et des pratiques sexuelles. Parce qu'il n'existe pas un seul modèle de sexualité, et parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière d'avoir des rapports, il n'y a pas une seule manière de se protéger ou de se faire dépister. Ce podcast s'adresse à vous, membres de la communauté LGBTQRI+, avec pour objectif de vous donner des repères de santé concrets, bienveillants et adaptés à vos réalités. Tout d'abord, les IST, c'est quoi exactement? Une IST, ou infection sexuellement transmissible, est une infection qui se transmet par voie sexuelle. C'est-à-dire que c'est une infection qui se transmet lors des rapports vaginaux, anaux, oraux, ou lors de tout contact de muqueuse ou de liquide biologique. Le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, etc. Parmi les IST les plus connus, on peut citer le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience humaine, la syphilis, qui n'a malheureusement pas disparu de notre pays, les infections à chlamydia ou chlamydiose, les infections dues au gonocoque, les hépatites B et C, qui sont des infections sexuellement transmissibles, et enfin les infections dues au papillomavirus humain, HPV. Certaines de ces infections peuvent rester asymptomatiques pendant longtemps. Cela signifie qu'elles ne donnent aucun symptôme, ni aucune gêne, et qu'on peut totalement ignorer qu'on est porteur du germe de la maladie. Cela signifie aussi qu'on peut les transmettre sans le savoir. D'autres IST peuvent donner des symptômes trompeurs, comme des brûlures urinaires, des démangeaisons, des pertes, des lésions génitales ou anales. Mais surtout, ces infections concernent tout le monde, quel que soit votre genre, votre orientation ou la façon dont vous avez des rapports. Certaines IST sont plus fréquentes dans certaines communautés, non pas à cause des identités, mais en raison de facteurs sociaux qui sont une moindre possibilité d'accès aux soins, une stigmatisation des personnes, un manque d'informations adaptées, etc. Pour prévenir la survenue des IST, il n'y a pas qu'une seule bonne méthode. On entend souvent dire que, pour éviter les IST, il suffit de mettre un préservatif. C'est à la fois parfaitement vrai et parfois insuffisant. En effet, il faut d'abord penser les protections en fonction des pratiques. Pour les pénétrations anales ou vaginales, le préservatif externe, c'est-à-dire placé sur le pénis, est efficace, à condition d'être bien utilisé. Le préservatif interne, appelé aussi féminin, peut être placé dans un vagin ou un anus. Il peut être une très bonne alternative. Pour les relations orales, les digues dentaires, carrés de latex ou de polyuréthane, peuvent être placés sur la vulve ou l'anus. Ensuite, il faut penser aux accessoires associés. Le lubrifiant est essentiel. Il évite la microfissure qui facilite la transmission des IST, en particulier dans les rapports anaux. Il doit être compatible avec le préservatif, à base d'eau ou de silicone, et jamais d'huile. La vaccination est aussi un outil de prévention. Il existe plusieurs vaccins qui protègent contre diverses IST. La vaccination contre le HPV. Cette vaccination est recommandée dès l'adolescence, mais aussi chez les adultes jeunes, jusqu'à 26 ans, voire 45 ans selon les cas. La vaccination contre l'hépatite B, qui est, comme on l'a déjà dit, une IST à part entière. La PrEP, ou prophylaxie pré-exposition, est un traitement préventif contre le VIH. Cette PrEP est gratuite dans les CEGID ou chez certains médecins généralistes. Elle est indiquée pour toute personne à risque, quel que soit son genre ou son orientation. L'important, ce n'est pas de dire « je fais tout bien », c'est de se poser les bonnes questions. Quelles pratiques j'ai ? Quels organes sont concernés ? Est-ce que je change souvent de partenaire ? Est-ce que je connais le statut sérologique de mes partenaires ? Est-ce que je me protège toujours ? Le dépistage, pour qui, comment et à quelle fréquence ? Le dépistage n'est pas réservé aux personnes à risque. Il est recommandé dès qu'on a une vie sexuelle active avec plus d'un partenaire ou qu'on change de partenaire. Les recommandations pour le dépistage sont simples. Tous les 3 à 6 mois si vous avez des rapports avec des partenaires multiples ou anonymes. Après un rapport non protégé, ou si vous présentez des symptômes tels que perte, brûlure, lésion. Enfin, si vous commencez une relation stable et souhaitez faire un check-up avec votre partenaire. Le dépistage doit s'adapter aux pratiques. Prise de sang pour le dépistage du VIH, de la syphilis et des hépatites. Prélèvement vaginal, anal, urétral ou buccal pour le diagnostic de chlamydia et du gonocoque selon les pratiques. Test HPV pour certaines personnes ayant un col de l'utérus. Il s'agit d'un frottis cervico-utérin, mais au lieu de rechercher des cellules anormales, comme dans un frottis classique, il cherche directement la présence du virus HPV par une analyse ADN ou ARN. Votre réflexion ne doit pas être « je suis une femme ou un homme, je dois faire ceci ou cela », mais « quel type de rapport avez-vous ? Utilisez-vous des protections ? Avec quel type de partenaire ?» Et n'oublions pas les autotests, notamment pour le VIH. Ils sont disponibles en pharmacie, dans les Cégides ou dans les associations. C'est un moyen rapide, discret et efficace pour faire un diagnostic tôt et prendre rapidement des mesures appropriées. Inégalités et obstacles à la santé sexuelle. Malheureusement, beaucoup de personnes LGBTQRI+ ont déjà vécu un malaise ou un rejet dans un parcours de soins. Certains se voient poser des questions intrusives ou hors sujet. D'autres évitent de consulter par peur d'être mal genrés, mal jugés ou infantilisés. Il est important que les professionnels de santé soient formés à la diversité des parcours de genre, à l'existence de différents types d'anatomie, personnes trans avec vagin, pénis, néo-vagin, etc. Et enfin, qu'elles possèdent la capacité d'écouter sans projeter un modèle hétéronormatif ou binaire. Certaines structures sont plus inclusives. Les Cégides, le planning familial, les centres LGBTI+, les maisons de santé communautaires. Il ne faut pas hésiter à s'y adresser. Sexualité, plaisir et consentement, il n'y a pas d'opposition avec la santé. En effet, prévention ne veut pas dire abstinence. Se protéger ne veut pas dire se priver. Parler de santé sexuelle, c'est parler de plaisir en sécurité, de confiance avec ses partenaires. C'est se donner les moyens de vivre ses désirs librement et avec dignité. Le consentement, le respect des limites, la négociation de la protection sont aussi des actes de prévention. En conclusion, protéger sa santé sexuelle est possible pour tous les corps, tous les genres, toutes les pratiques. Se faire dépister régulièrement, utiliser des protections adaptées, discuter avec ses partenaires, trouver un professionnel de santé de confiance sont des gestes simples et puissants. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et souvenez-vous, vos corps méritent le respect, vos pratiques méritent l'écoute et votre santé mérite des réponses adaptées. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queer As You pour un prochain épisode de C'est ta santé.